Bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureux d'être ici pour évoquer les liens d'Élisée Reclus avec la peinture. Donc, quelques mots sur Élisée Reclus, sans être trop long, même s'il y a toujours des choses à dire. Donc, le géographe Élisée Reclus, 1830-1905, est au cœur du mouvement anarchiste. Il en est un des initiateurs et contributeurs importants. Errico Malatesta, par exemple, considéré, aux côtés de Michel Bakounine et Pierre Kropotkine, comme une des trois figures les plus importantes du mouvement. Le cas particulier d'Élisée Reclus permet d'esquisser une réflexion sur la peinture et le mouvement anarchiste. Alors vous verrez que je ne vais pas forcément les commenter très longuement, mais que Reclus, étant assez célèbre en son temps, a suscité un certain nombre de portraits d'artistes divers que je serais peut-être amené à évoquer un peu plus longuement. Ici, un portrait donc par Théo van Rieselberghe, artiste belge avec lequel Reclus était ami. On voit que le portrait a été fait après la mort de Reclus en 1907. Donc, Reclus est une personnalité publique, connue tant pour son engagement politique que pour sa production scientifique, les deux étant intimement liés dans son esprit. Je rappelle en quelques mots son adhésion à l'AIT dès 1864, sa participation à la Commune de Paris qui lui vaudra emprisonnement et bannissement, son soutien important aux publications La Révolte, Le Révolté, puis Les Temps Nouveaux. On lui doit aussi la publication posthume de certains des travaux de Bakounine, puisqu'il sera un des trois exécuteurs testamentaires. Il invite par ailleurs Kropotkine, avec lequel il va travailler longuement, collaborer sur la durée, à travailler sur la nouvelle géographie universelle, donc un des trois grands ouvrages de géographie de Reclus. Reclus le soutient pendant l'emprisonnement de Kropotkine à Clairvaux et élabore avec lui la notion de communisme anarchiste, je cite, conséquence nécessaire et inévitable de la révolution sociale et, je cite à nouveau, expression de la nouvelle civilisation qui inaugurera cette révolution. C'était dans Le Révolté. Ici, donc, un portrait par Eugène Carrière, toujours de Reclus. Donc, je vais inscrire cette évocation sous trois aspects. Tout d'abord, les rapports d'Élisée Reclus à la peinture dans le cadre plus vaste de la réflexion des anarchistes du 19e siècle sur la peinture. Et vous verrez qu'on rejoindra certaines des choses évoquées par Christiane Carlus tout à l'heure. Ensuite, l'attention qu'Élisée Reclus a apportée à l'illustration graphique de ses ouvrages. Et puis le cas particulier de la réalisation d'une fresque intitulée « L'histoire de l'écriture », qui accueille le visiteur à l'entrée de la bibliothèque Villon à Rouen. Et cas particulier puisque Reclus, d'une certaine façon, a contribué à l'élaboration, au choix des thèmes de cette œuvre, on le verra à la fin, si j'y arrive. Donc Élisée Reclus, géographe et écrivain paysagiste. Bien sûr, Élisée Reclus n'était pas peintre. Mais la qualité d'évocation et de description de ses textes en a fait un peintre à sa manière. Nombre de ses textes, donc souvent cités, notamment dans ses histoires, Le Ruisseau ou La Montagne, mais aussi dans sa géographie, sont des peintures littéraires. Mais ce talent souvent remarqué ne doit pas oublier le géographe qui était Reclus et le lien étroit que la géographie entretient nécessairement avec le paysage. Là aussi, on revient avec la peinture. Donc, terme étroitement partagé par peintres géographes qui nous proposent tableaux et représentations des milieux qui se trouvent sous leurs yeux. Bien sûr, les outils des uns et des autres diffèrent. Quand les tenants des beaux-arts travaillent avec le trait, l'huile et l'aquarelle, les géographes usent de la prose, du graphique, de la carte et du dessin. Ils se rejoignent à cet endroit. L'attention d'Élisée Reclus aux arts visuels est connue, tant pour le soin qu'il apporte au choix et à la conception des images qui accompagnent ses textes que pour ses liens avec de nombreux artistes peintres. Pour lui, l'esthétique a un rôle à jouer dans le processus d'émancipation sociale. Et les dessins, on y reviendra un petit peu plus en détail, de Léon Bennett pour les histoires, Ruisseau et Montagne, comme ceux de François Kouka pour L'Homme et la Terre, participent pleinement du projet politique que Reclus appelle de ses voeux. Pour les citer, on lui connaît des amitiés avec des peintres fameux. On peut citer Gustave Courbet, que Reclus côtoie parmi les exilés suisses de la Commune de Paris. Donc ils se sont fréquentés à différents moments. On peut citer aussi Camille Pissarro, que Reclus croisait en Normandie, où il a résidé à proximité d'Éragny, où Pissarro avait son atelier principal, et il effectue aussi avec Pissarro, compagnie de Pissarro, un voyage aux Pays-Bas. En 1907, donc on l'a vu tout à l'heure, le Belge Théo van Rieselberg réalise un portrait de Reclus, tout comme Eugène Carrière qui le portraiture en 1902. Federico Ferretti, donc géographe spécialiste d'Élisée Reclus, a montré comment, là je le cite, l'approche de Reclus de l'art et les relations qu'il entretient avec peintres et dessinateurs s'inspirent du débat sur l'art et le peuple qui avait été lancé en 1860 par l'un des inspirateurs à la fois de son anarchisme, l'anarchisme de Reclus, et de sa géographie, notamment à travers l'idée de fédéralisme. Il s'agit donc de Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865. Alors, avant Proudhon, la question de l'art et du social va apparaître donc chez des personnes qui ont été citées par Christiane tout à l'heure, les Saint-Simoniens, comme chez les fourriéristes. Henri de Saint-Simon, le marquis, publie « L'artiste, le savant et l'industriel » en 1824. Charles Fourier, de son côté, aborde ces questions dans « Théorie de l'unité universelle » 1822, ou encore « Le nouveau monde amoureux » ou encore « Cités ouvrières » en 1849. Alors, commençons par Proudhon. Donc Proudhon, lui aussi, est ami avec Courbet, qu'on retrouve à nouveau. Il échange aussi avec d'autres artistes, comme notamment, il y a quelques correspondances avec Charles Baudelaire, qui pourtant, lui, revendique le détachement de l'art avec l'utilité et l'enseignement, soit donc une production artistique qui n'a pas besoin de justification. Proudhon va au contraire développer une conception presque opposée en définissant un certain nombre de principes qu'il considère communs à tous les arts, peinture, statuaire, mais aussi littérature, poésie, architecture, musique et danse. Et donc, du principe de l'art et de sa destination sociale, publié en 1865, après Joseph Proudhon s'intéresse au rôle que l'esthétique doit jouer dans le processus d'émancipation sociale. On voit bien les termes, le rôle à jouer dans le processus d'émancipation sociale. Pour lui, donc, je cite, « La peinture aura pour effet, dans l'ensemble de ses œuvres, les plus sérieuses comme les plus légères, les plus savantes et les plus capricieuses, d'exprimer la vie humaine. » Et je coupe un peu, mais je continue à citer. « De cette définition primordiale de l'art et de sa fin, sa finalité, il suit, premièrement, que dans toute œuvre d'art, on doit considérer en premier lieu l'idée même de l'œuvre, son but pratique, et en second lieu l'exécution, les effets avant les moyens, le contenu avant le contenant, la pensée avant sa réalisation. » Donc on voit bien qu'il y a une fonction qui est attribuée à l'art. Alors Bakounine, autre penseur évidemment important de la pensée anarchiste, a lui une approche beaucoup moins utilitariste, puisqu'il affirme par ailleurs la supériorité de l'art sur la science, science à laquelle il dénie le droit de tout gouverner, de tout savoir et de tout prévoir, ce qui peut nous évoquer des débats contemporains. Au contraire, il défend l'art pour sa capacité à exprimer la vie. Je cite, « La vie est toute fugitive et passagère, mais aussi toute palpitante de réalité et d'individualité, de sensibilité, de souffrance, de joie, d'aspiration, de besoin et de passion. » Donc une attention plus particulière et plus favorable à un art qui ne serait pas forcément fait de message, mais au nom de la sensibilité de l'expression. Alors ces débats, et puis bon, Kropotkin va écrire là-dessus, enfin voilà, beaucoup de penseurs vont s'intéresser à tout ça. Ces débats sur l'art et le peuple ont sans doute influé sur des critiques d'art qui vont inciter les peintres à tourner le regard vers le monde ouvrier. Et donc celui qu'on voit à gauche de l'écran, c'est à gauche, oui. Donc c'est Jean Dolan qui est un critique important, qui va être proche de Rodin, de nombreux artistes, collectionneurs lui-même. Et donc dans un texte de 1874, quand même peu de temps après la Commune de Paris, il en appelle aux artistes Il y a un modèle que vous dédaignez, dit-il, l'ouvrier. Celui que je connais, l'ouvrier des villes, l'ouvrier suffit à toute une vie d'artiste. Le paysan ne rebute pas François Millet. Où est le François Millet de l'artiste ? Autre critique, donc, qui est lui à droite de l'écran, Gustave Geoffroy, autre personnalité importante, auteur de la première monographie consacrée à Claude Monet et aussi biographe du révolutionnaire Auguste Blanqui. Il cherche, lui, à promouvoir, un peu plus tard, un projet de musée au quartier ouvrier. Alors, ça devait se trouver dans le 11e, autour de Saint-Antoine, le Temple, République, un peu dans ces coins-là, qui étaient des quartiers ouvriers. Et l'idée, c'était un peu de dire, sur un point de vue moral, plutôt qu'ils aillent au bistrot le soir, il vaudrait mieux qu'il y ait un endroit un peu plus intelligent. Donc, il y a l'idée de voir des œuvres artistiques, mais il y a aussi, et ça peut rejoindre ce qui a été évoqué par Christian de Carlus tout à l'heure sur Maurice, c'est-à-dire aussi que ça soit un lieu d'apprentissage et de découverte des différents artisanats. Donc, il y aurait des œuvres d'art qui auraient été exposées, mais pas que, aussi des œuvres d'art décoratif ou d'artisanat, avec des possibilités d'en réaliser l'apprentissage dans ces lieux-là, qui auraient été ouverts après les horaires de travail. Ça n'a pas eu lieu, mais on voit que ça anticipe un peu sur ce qui pourra devenir le mouvement de l'éducation populaire. Et puis aussi, on peut rappeler que Fernand Pelloutier suggérait lui aussi que les bourses du travail soient aussi des lieux d'éducation artistique. Donc on sent qu'il y a un mouvement d'ensemble dans cette direction-là. Alors, côté peinture... La grande révolution artistique je vais laisser le titre apparent, voilà, du 19e siècle, du milieu, première partie du 19e siècle, c'est l'impressionnisme. Cependant, donc là on voit le tableau de Claude Monet qui donne son nom à ce mouvement, Impression Soleil Levant, qui illustre le port du Havre. S'ils révolutionnent la peinture, les impressionnistes vont très peu s'intéresser à des sujets politiques. Leur sujet, c'est la lumière. Comment la représenter de manière plus libre, plus vibrante ? Donc ce tableau est iconique. On voit bien que ce dont il s'agit, même si c'est bien une vue du port du Havre, donc une scène industrielle, le sujet du peintre, ce n'est pas l'activité du port, mais la lumière. Installé à la fenêtre de son hôtel, où il séjourne, un hôtel qui donne sur le port, Monet se concentre sur la manière toujours changeante qu'a la lumière du soleil de jouer au travers des brumes matinales et des fumées des bateaux. Donc je ne cite pas d'autres impressionnistes, c'est un mouvement très et bien connu. Il en manque un bout, mais... La génération qui va suivre, celle des peintres qui naissent à partir de 1860, ne se reconnaît pas dans ce terme d'impressionnisme, et donc ils vont se désigner comme symbolistes, néo- ou post-impressionnistes, pointillistes. Si pour eux la leçon de l'impressionnisme a été intégrée et acquise, ils entendent bien œuvrer à une autre peinture par le choix d'une manière différente et des sujets nouveaux. Et donc, nombreux sont parmi ces jeunes peintres, ceux qui refusent tout pittoresque et cherchent au contraire à montrer, voire documenter, voire dénoncer. Alors, on peut citer Maximilien Luce, qu'on voit là, ou Paul Signac, Seurat, Constantin Meunier, Alexandre Steinlen, ou encore Gaston Prunier, que j'ai mis là, bien que lui ne soit pas, n'ait pas d'engagement anarchiste politique connu. Certains de ces artistes, à la fin du 19e, se revendiquent de l'anarchie ou sont des soutiens du mouvement. Par exemple, ils vont donner des tableaux pour être vendus et soutenir le bénéfice de ces ventes vont servir à alimenter les caisses du journal Le Temps Nouveau, par exemple. J'en profite pour un petit détour par Maximilien Luce pour évoquer le fait qu'il y a une exposition qui lui est consacrée jusqu'au 14 septembre au musée de l'histoire du Vieux Montmartre. Voilà, c'est assez passionnant, même si le tarif d'entrée est trop cher, je l'aurais dit, mais je le répète à l'antenne. Venons-en maintenant à Élisée Reclus et les arts graphiques. Donc, pour ces histoires Reclus, l'histoire d'un ruisseau, l'histoire d'une montagne notamment, mais aussi dans d'autres ouvrages, Reclus collabore avec Léon Bennett, par ailleurs illustrateur de très nombreux romans de Jules Verne et publié chez l'éditeur Jules Hetzel. Et donc cette collaboration va commencer à l'histoire d'un ruisseau qui est publié en 1869, et puis va se poursuivre par l'histoire d'une montagne qui sera publiée en 1880. Mais au moment de travailler à l'illustration d'Histoire d'une montagne, Reclus est d'abord chagriné, en fait, puisque, et il le dit à son éditeur, à cause de l'éloignement, il est alors exilé en Suisse. Il ne pourra pas guider la main du peintre pour lui faire partager le site qu'il a vu et décrit. Alors finalement, Reclus accepte le travail de Bennett pour cette histoire d'une montagne, mais non sans émettre quelques réserves qui, vous allez voir, sont intéressantes. Donc je cite Reclus dans une correspondance avec son éditeur. « Le torrent qui coule entre des sapins tous ébranchés me laisse quelques doutes dans l'esprit. » Alors, c'est pas de cette vue, j'ai pas retrouvé la vue qu'il décrit exactement, mais ça donne une idée. Me laisse quelques doutes dans l'esprit. Les rochers du fond sont tout aussi bien de la brume. Le filet d'eau de la cascade paraît être un sapin éclairé. Ce paysage ne semble point avoir été vu. Quant à la forme mythologique, tordant ses cheveux d'où jaillit une onde intarissable, ce n'est pas ainsi que je vois et que je ressens. Donc voilà, interrogation ou questionnement de Reclus sur comment ces ouvrages peuvent être illustrés et son envie de guider la main du peintre et de l'illustrateur. Alors, autre ouvrage décisif et très important pour Reclus, c'est son troisième grand ouvrage de géographie, il s'appelle « L'homme et la terre », qui va être publié à partir de 1905, et la publication continuera au-delà du décès de Reclus le 4 juillet 1905, bientôt 120 ans. Là, il va faire appel à un peintre très jeune à l'époque, qui s'appelle František Kupka, ou François Kupka en français, lequel va réaliser. Alors, il est connu pour ses collaborations avec les publications satiriques comme L'assiette au beurre, dont sont extraits les deux dessins de reproduction qui sont là, il y en a un, c'est sur le thème de la guerre, puisque L'assiette au beurre avait coutume de faire des publications thématiques. Et donc là, il y en a un qui est sur la guerre, la paix. Donc c'est souligné un trou, vous devriez bien nous la foutre, donc la paix. Et puis l'autre, c'est sur le thème de l'argent. Il y a ce personnage qui revient tout le temps, qui a le gros, crapaud financier, qui a le ventre gonflé d'or. C'est pour ça qu'il rejoint comme ça. Donc on voit un dessin très, très expressif et tout de même aussi très politique. Reclus va faire appel à Kupka pour cette publication. Et donc, il y a nombre d'entrées de chapitres qui vont être illustrées de dessins de Kupka qui, à mon sens, quand on feuillette L'homme et la terre, ces dessins, cette illustration contribuent fortement à donner toute la modernité de l'ouvrage. Le texte en lui-même a beaucoup à nous dire aujourd'hui encore, mais cette approche, cette première lecture ou ce feuilletage, à mon sens, se fait de façon très, très contemporaine et très, très dynamique. Et ça contribue au plaisir qu'on a à ouvrir. La différence, le travail entre les deux hommes va être une... Le travail entre les deux hommes va être une véritable collaboration en dépit de leurs différences d'âge, mais aussi du peu de temps qu'ils ont eu l'occasion de se rencontrer. Quand paraît le dernier volume en 1908, les illustrations de Kupka sont décalées, puisque lui, son travail de peintre a continué à évoluer, et il faut savoir que Kupka va être un des premiers grands artistes abstraits, ce qui est en cours dans le tableau qu'on peut voir donc sur la droite. Voilà ce qu'en dit Kupka lui-même. Pendant 4 années, j'ai eu à suivre l'évolution de l'homme sur la terre, et c'était pour moi un bienfait. J'ai vu les humanités passer mieux qu'on les voit dans les écoles. La représentation, l'évocation du monde, est une préoccupation centrale de l'œuvre de Reclus. Ce souci témoigne de sa volonté de partager des connaissances pour qu'elles ne soient pas réservées à une élite et de les mettre à la portée de toutes et tous. L'iconographie est ainsi un élément déterminant de ses ouvrages. C'est l'un de ceux reclus qui est le premier à de manière systématique utiliser les cartes, mais aussi dessins, graphiques, gravures, photographies, faisant de ces ouvrages des textes plaisants et documentés. Pour Reclus, l'esthétique a un rôle à jouer dans le processus d'émancipation sociale et les dessins de Kupka participent pleinement du projet politique que Reclus appelle de ses voeux. Maintenant, ce regard particulier sur un échange qu'il a eu, que Reclus a eu avec ce peintre qui s'appelait Paul Baudouin, avec lequel il avait des liens familiaux. Baudouin, il faut le savoir, a été un des artisans du retour en grâce de la peinture de fresques, une technique qu'il découvre alors qu'il assiste à un autre peintre connu de l'époque qui s'appelle Pierre Puvis de Chavannes. Et donc, dans le dernier quart du 19e siècle, les fresques sont appelées à orner les mairies, les bibliothèques et les gares, ces cathédrales de la Troisième République. Et donc, les scènes représentées se veulent porteuses de messages du nouveau pouvoir, progrès, travail, bonheur. Et donc là, on peut voir à droite une fresque qu'on trouve à la mairie du 10e à Paris. Je sais qu'il y en a une aussi dans la salle des fêtes de la mairie du 11e et dans de nombreux bâtiments, je crois même dans la mairie de Paris. Donc là, c'est allégorie du canal Saint-Martin. Donc on voit une espèce de peinture très réaliste, avec volonté d'un message, en quelque sorte. Hein. Ce dont je vais vous parler un peu plus longuement, c'est parmi les travaux que Baudouin a pu être amené à faire, il a beaucoup réalisé de choses à Rouen, sa ville natale, et tout particulièrement, il a réalisé un certain nombre de fresques qui vont servir à orner l'escalier qui mène à la salle de lecture de la bibliothèque Villon. Et donc cette série va s'appeler « L'histoire de l'écriture ». L'apport de Reclus était déterminant dans la conception de ses fresques, comme en témoigne une correspondance échangée avec le peintre. Donc, pour essayer de situer, cet escalier mène au deuxième étage du bâtiment. De l'autre côté du bâtiment, il y a le musée des Beaux-Arts. Donc, on voit qu'on est dans une sorte de luxe communal, peut-être. Et puis, il y a une vraie mise en scène, puisque de part et d'autre, de l'entrée de la bibliothèque qu'on ne voit pas sur les photos, j'avais pas le recul nécessaire, il y a toutes ces fresques. Les deux écrivains qu'on peut voir sont les locaux de l'étape, à savoir Corneille et Flaubert, qu'on a peut-être reconnu là à gauche de l'image. Et puis il y a une première fresque que je ne montre pas ici, qui s'appelle « Le livre ouvert à tous », qui a été installé en 1892, et puis il va se passer 2 ans avant que les 4 autres fresques soient installées 2 années plus tard. Donc vous avez vu les vues générales de l'escalier, et donc c'est dans cet intervalle de deux ans, que Reclus rend visite au peintre dans son atelier à Paris, et pour prolonger l'échange, il lui écrit ainsi la lettre suivante. « Mon cher ami, en vous quittant, j'ai continué à penser à vos fresques et je continue la conversation par lettre. De même que les 4 panneaux doivent représenter une série historique continue, de même qu'ils doivent aussi se développer en une sorte de rythme au point de vue artistique, de même il paraît nécessaire que chacun d'eux montre sous une forme saisissante et originale une idée analogue, celle de l'invention, de la révélation. » Et donc les 4 fresques proposent une histoire de l'écriture et de la lecture, soit de la diffusion de la connaissance. Donc le signe, pour celui, on le verra un peu plus gros plan tout à l'heure, qui est à droite ici. Le manuscrit qui est donc là à gauche par là. Et puis le livre chez les moines et l'imprimerie, l'aspect le plus récent. Dans leurs échanges, Reclus prend acte de la liberté qu'a l'artiste quant au style de son tableau. Il ne s'attarde pas à cet aspect. Hein. Pour citer Federico Ferriti à nouveau, il s'est intéressé plutôt au contenu et usages sociaux de l'art qu'au langage visuel en soi. Alors le signe. De quoi s'agit-il ? Reclus poursuit sa lettre. « À cet égard, votre premier panneau, donc le signe, est admirable. Le monde nouveau de la pensée et de l'art se révèle à vos primitifs qui ne connaissent encore que la satisfaction de l'instinct. intitulé Le Signe. Donc on y voit un couple de Celtes face à une inscription gravée sur une pierre druidique. La presse locale nous apprend que Le Signe a été inspiré à Baudouin par Reclus. Dans la seconde fresque, le manuscrit que l'on voit ici, alors je vous l'enlève avant parce que Reclus exprime ses réticences, ça devait être une évocation de la Rome antique. Donc Reclus exprime ses réticences par une critique affirmée de la dimension impériale et coloniale de la Rome antique, laquelle préfigure très certainement à ses yeux les états coloniaux modernes à son époque. Mais le deuxième, donc je cite Reclus, ne rappelle pas une époque de création dans l'histoire de l'humanité. Une inscription lapidaire romaine ne peut rappeler que la conquête, c'est-à-dire une période d'extermination et de recul. Et puis, que sont ces inscriptions romaines connues? Des édits, des lois menaçantes, des phrases de convention, des mensonges funéraires? Donc là, on voit bien les cibles un peu traditionnelles des anarchistes, la loi, la religion, le parlement, phrases de convention. Ouais. Et donc, que va devenir ce tableau? Et donc, si le géographe s'autorise à critiquer le projet du peintre, c'est sans doute qu'il a une suggestion à lui faire. Et voilà ce que dit Reclus. Ne pourriez-vous hardiment vous replacer en pleine histoire, en nous montrant la création et la révélation de l'écriture phénicienne, même de la nôtre? Les indigènes des bords de la Seine, non plus nus, mais déjà vêtus armés à la gauloise, avec leurs instruments de l'âge de bronze, s'entretenant avec des marins venus de Phénicie. Et l'un d'eux est un savant. Donc on le voit là, qui semble tenir le texte. Il déroule un papyrus. Le papyrus demandé et se fait dicter par les Gaulois le nom de Rotomae, qu'il écrit en caractère primique. N'est-ce pas à la fois la découverte, c'est toujours le Reclus qui parle, hein, bien sûr. N'est-ce pas à la fois la découverte de l'écriture attribuée à ses véritables auteurs, donc les Phéniciens et non pas les Romains, et sa révélation à nos ancêtres de la Gaule séquanienne, sur la Seine. Donc, Reclus fait l'écho d'une découverte récente, celle de pièces archéologiques phéniciennes et carthaginoises retrouvées à Lillebonne, donc un petit peu en aval de Rouen sur la Seine, par le père Alfred Louis Delattre, grand spécialiste d'archéologie carthaginoise. Sa proposition sera suivie d'effet, puisque c'est au mot près le tableau que Baudouin a réalisé. Donc on voit bien, et je vais en terminer, 5 minutes, c'est magnifique, trop de temps. On voit bien au travers de cet échange entre le géographe et le peintre la vocation, on serait tenté de dire la mission que Reclus propose aux artistes. Par son message, l'art doit être le véhicule de l'émancipation sociale, tant à travers son réalisme que par sa valeur éducative. Donc on entend parler le pédagogue qui était aussi Reclus, bien sûr, mais on ne peut s'empêcher de sourire à cette conception un peu utilitariste du geste artistique. On peut aussi penser à certains moments, quand on voit certaines toiles de ce genre-là, à penser au réalisme socialiste qui sera développé quelques décennies plus tard. Mais en tout cas, on peut constater que les révolutions dada et surréalistes qui bouleverseront les conventions idéologiques et esthétiques et politiques semblent encore bien éloignées. Hein, c'est-à-dire que les surréalistes, on va en parler plus tard, mais c'est-à-dire que ce qui est représenté aura finalement de moins en moins d'importance par rapport à la démarche et au geste qui sera mis en action. Puisque j'ai encore une demi-trentaine de secondes, j'en profite pour vous rappeler qu'à la librairie Publico, vous pouvez assister à l'exposition de Happy Fingers jusqu'au 21 juin. Et vous voyez que Reclus y est présent, donc ce n'est pas tout à fait par hasard. Et puis voilà, pour terminer, un dessin de Tardy, vive la Commune.
Merci à toi. Alors, tu peux peut-être dire, je t'accorde 30 secondes pour dire qu'il y a les Reclusiennes cet été.
Je peux.
Tu peux.
Alors, donc les Reclusiennes, c'est une manifestation qui se déroule à Sainte-Foy-la-Grande, 33, donc en Gironde.
Où est né le Reclus?
Où est né Élisée Reclus et quelques autres membres de la fratrie. Tous les ans, sans discontinuer depuis 2013, on choisit chaque année un thème. Cette année, ce sera bifurqué. Voilà, comment faire autrement que comment ça se passe en ce moment, voilà, une question utile. Donc bifurcation individuelle, personnelle, mais aussi les bifurcations subies des technologies, de l'histoire, quand on fait badaboum à Hiroshima, une bifurcation.
Il y a un site
Ça s'appelle Bifurqué, et ça sera du 16 au 19 juillet à Sainte-Foy-la-Grande.
Il y a une cuvée, Élisée Reclus, d'ailleurs, c'est un vin relativement agréable à tester.
Je voulais juste vous dire qu'il existe un vin qui s'appelle le luxe communal.
Nous avons tous hâte de goûter au luxe communal, hein. Toutes ces formes. Je profite d'un petit de ce micro qui m'est alloué pour un petit message personnel et collectif, comprenne qui pourra. Un grand salut du côté de Chirolles en Sud-Ardèche et tout spécialement au moulinage de Chirolles qui nous ont si bien accueillis et où vit aussi l'idée en acte du collectif et des arts.